Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Si je vous demande pour commencer si vous avez la moindre idée de ce à quoi pourrait ressembler le gouvernement après le remaniement, vous me répondez non ?
Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet.
D'accord. Et si je vous demande si Édouard Philippe va rester Premier ministre, vous allez me dire là aussi que...
Je vais vous dire la même chose. En revanche, je peux vous parler assez longuement du nouveau chemin que le président détaille ce matin, qui donne une part très importante à l'Europe.
Alors
et
ça,
qui montre bien que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, tout comme il le fait déjà depuis 3 ans, notre président, il n'y aura pas de France forte dans une Europe affaiblie. Donc on a besoin d'avoir un ensemble de pays qui avancent ensemble pour que notre reconstruction économique, environnementale, soit possible en France.
Alors on a passé les figures imposées, on va pouvoir passer dans le programme libre. Vous revenez tout juste d'un voyage en Suède, vous y étiez hier. Ce déplacement s'inscrivait dans la perspective du Conseil européen des 17 et 18 juillet afin de d'essayer de parvenir à un accord sur le plan de relance européen. La Suède fait partie de ce que l'on appelle les pays frugaux ou parfois radins. C'est un peu moins sympa, mais enfin c'est comme ça qu'on les appelle aussi. Est-ce que vos discussions ont été fructueuses ?
D'abord, il faut quand même rappeler à tous le chemin qu'on a déjà parcouru. Il y a 3 ans, quand le président de la République nous parlait de souveraineté européenne, tout le monde se demandait de quoi on parlait. Il y a 3 mois, quand on a dit il faut un plan de relance ensemble, parce qu'on voit que cette crise nous touche tous, il y avait quand même beaucoup de suspicions. Il y a 3 semaines, quand on a dit et ce plan de relance, il faut qu'il soit fondé sur un endettement commun pour que ça puisse être rapide, massif, solidaire, il y avait aussi des doutes. Tous ces obstacles-là, ils sont tombés. Et donc quand je suis allée effectivement en Suède, je suis aussi allée en Autriche la semaine dernière, aux Pays-Bas, c'est des pays qui sont d'accord avec nous sur une chose, ils vivent la même chose que les Français. Moi j'ai rencontré les syndicats, j'ai rencontré les entreprises, j'ai rencontré les parlementaires. Vous savez, le choc économique qu'on voit nous en France, ils ont le même.
Ils sont d'accord sur le constat, est-ce qu'ils sont d'accord sur les moyens ensuite ?
Ils ont des cultures différentes politiques, ils ont des demandes différentes. Nous, vous savez, avec le président de la République, on a une position qui est très simple. On va pas imposer ce plan. On va pas tordre le bras à quiconque. On va pas créer de la rancœur, de l'humiliation. On veut que ce plan, il soit bon pour chacun. Et donc, notre conception, c'est que nous sommes une puissance d'équilibre et de dialogue. Il faut qu'on s'assure que, parce qu'il nous faut un accord, parce que la crise, comme le dit le président, la rentrée va être difficile. Si on n'a pas cette visibilité, si on n'a pas ce soutien européen, on n'arrivera pas à faire nos plans de relance nationaux, parce qu'on est tous interdépendants. Quand vous allez en Suède, 30% du PIB, de la richesse nationale, dépend des exportations vers l'Union européenne. Donc s'il y a bien un pays qui aujourd'hui est très conscient qu'il a besoin que l'Europe aille bien pour qu'il aille bien lui-même, c'est par exemple la Suède. C'est la même chose pour les Pays-Bas. Et donc le dialogue qu'on a,
alors, est-ce que les mentalités évoluent ?
Mais elles ont déjà beaucoup évolué.
Vers cette idée.
Parce que le plan de relance,
elle a fait une espèce de conversion idéologique.
Bien sûr, mais vous savez, les entreprises suédoises que j'ai vues hier, elles savent que ce plan, il est absolument nécessaire pour protéger l'emploi en Suède. Les syndicats suédois qui ont un rôle majeur. Parce qu'on sait que c'est une démocratie où les syndicats ont beaucoup plus de poids que dans beaucoup d'autres. Mais les syndicats, ils veulent de ce plan. Parce qu'ils savent bien que l'emploi en Suède dépend de la bonne santé économique de l'Europe. Alors maintenant, il y a des débats. Comment on va utiliser l'argent ? Bien sûr que cet argent ne va pas servir à payer des fonctionnaires, des retraités ou financer les déficits quelque part en Europe. C'est un plan d'investissement. Mais déjà, de le dire, ça clarifie beaucoup de choses. Ensuite, il y a la question de comment on va le rembourser.
Oui, alors justement, si on s'arrête une seconde sur ce mécanisme, parce que c'est vrai qu'il peut avoir quelque chose d'un petit peu conceptuel. On parle de 750 milliards d'euros. Concrètement, si un accord est trouvé donc entre les partenaires européens, comment va fonctionner ce dispositif ? Où serait trouvé l'argent ? Où serait-il pris ? Qui en bénéficierait ? Selon quelle modalité ? Et puis, vous venez de l'évoquer, qui et dans combien de temps on rembourserait ces sommes tout à fait considérables ?
Je vais répondre à chacune de vos questions, mais vous voyez déjà le fait qu'on puisse parler de ça, c'est déjà qu'on a fait un chemin immense et qu'on a pris conscience de la gravité de la crise.
La crise sanitaire a provoqué un
électrochoc. Et de son caractère exceptionnel et donc des moyens exceptionnels. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? Sur les marchés financiers. Personne aujourd'hui n'a de l'argent caché dans un coffre pour le pouvoir le mettre. Donc d'abord, c'est un endettement commun.
Donc on emprunte.
À quoi il sert ? Il sert à investir dans les secteurs et les régions qui sont le plus touchés économiquement par cette crise.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque pays dira « moi je suis candidat » entre guillemets à recevoir telle part de cet argent parce que j'en ai besoin pour faire ceci ou cela, c'est ça ?
C'est le plan aéronautique en France, c'est le plan automobile, c'est l'investissement dans nos hôpitaux. On en a besoin parce qu'on sait que c'est essentiel pour que notre pays aille bien. C'est aussi essentiel pour que les autres aillent bien. Parce que par exemple, l'automobile en France... C'est lié à l'automobile en Italie, c'est lié à l'automobile en Slovaquie, c'est lié à l'automobile en Allemagne. Si on ne redémarre pas, les autres ne redémarrent pas non plus. Donc, les secteurs et les régions les plus touchés, pour qu'on puisse repartir chacun et ensemble. Et comment on rembourse ? On remboursera quand on ira mieux, donc on se dit après 2027-2028, et on rembourse en mettant à contribution ceux qui aujourd'hui bénéficient de l'Europe, mais n'y contribuent pas assez. Je pense aux géants du numérique. Ils vont bénéficier de la relance, probablement. Est-ce qu'ils contribuent assez fiscalement? Non. Donc on a besoin.
Les GAFA notamment.
On a besoin de la taxe GAFA. Je pense à la taxe carbone aux frontières. Dans cette relance, cette reconstruction, on veut être beaucoup plus environnementalement compatible avec notre transition. On va mettre des normes en plus, c'est très bien. Mais on va pas continuer d'importer du monde entier des biens qui n'intègrent pas les coûts. Donc on veut une taxe carbone aux frontières pour financer ce plan.
Et avec ces nouveaux outils-là, on pourrait avoir suffisamment d'argent pour rembourser 750 milliards ?
Mais ce qui est sûr, c'est que la ligne du président est très claire ce matin encore énoncée. On va pas sortir de la crise en augmentant les impôts. Parce que si, avec déjà le choc économique individuel, collectif qu'on vit, la solution c'est partout augmenter les impôts, ni les Suédois, ni les Autrichiens, ni les Néerlandais ne sont pour, ni les Français ne sont pour. Et donc il faut qu'on réfléchisse. Comment on emprunte aujourd'hui, comment on dépense cet argent utilement pour investir, pour construire notre futur, pour créer des emplois pérennes. Et ensuite, comment pour rembourser? Ben, on va mettre à contribution ceux qui auront bénéficié du plan, mais qui jusqu'à maintenant ne contribuent pas à ce développement dont ils sont parfois très... ils en voient les bénéfices tous les jours.
Alors, il ne reste pas un temps fou, mais de mon challenge, je voudrais qu'on dise un petit mot du Royaume-Uni, puisque l'Europe et le Royaume-Uni ont entamé lundi une phase de négociation qui va durer 5 semaines pour tenter de trouver un accord sur leurs relations futures après le Brexit. Mercredi, donc 2 jours après le coup d'envoi de ces discussions, Angela Merkel a dit que les Européens devaient se préparer à l'hypothèse d'un no deal, c'est-à-dire donc une sortie sans accord. Est-ce que c'est aujourd'hui le scénario le plus probable ?
Ce que je sais, c'est que déjà les Britanniques sont sortis politiquement de l'Union. C'était en février. Aujourd'hui, on discute de choses très concrètes. Le commerce, la pêche, les normes agroalimentaires. Donc on réfléchit aux conditions de faire du commerce ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est que nous voulons un accord. Parce que on a besoin de ce partenaire à nos côtés comme on a besoin depuis 40 ans.
Pas d'accord, ça aggraverait la crise.
Mais on ne veut pas d'un mauvais accord. Ouais. Et je peux vous dire que ceux qui vont le plus pâtir si on n'arrive pas à avoir un accord, c'est les Britanniques. Ouais. Parce qu'ils vont avoir le double choc. Le choc du coronavirus, plus le choc du Brexit. Et ils n'ont pas le plan de relance européen. Donc aujourd'hui, nous, on veut bien signer. Mais on ne signera pas n'importe quoi. C'est un accord commercial. C'est 10 ou 20 ans de notre futur économique qui est en jeu. Et moi, les agriculteurs français... et européens, les pêcheurs français et européens, les entreprises, je peux pas leur dire demain, écoutez, on a besoin d'un accord, donc on va signer un mauvais accord qui vous protège pas. Ça peut pas être ça la réponse. Donc, soit l'accord il est bon, il est équilibré, je demande pas aux Britanniques de perdre, je demande pas à nous ce qu'on gagne, je veux qu'on reste dans un monde équilibré. Soit il est équilibré.
Mais c'est difficile, c'est une négociation difficile.
C'est évidemment difficile, parce que il y a de la grande politique qui est toujours à l'œuvre dans un certain nombre de domaines. Or, nous, on cherche à être très pragmatique. Comment, dans des domaines très concrets, on peut continuer comme on l'a fait depuis 40 ans, avoir une relation équilibrée.
Merci Amélie de Montchalin. Bonne journée.